Sabbat passé, nous avons ensemble regardé quelles étaient les conditions que la Bible nous présente pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne tombe pas sur l'un ou sur l'autre au hasard. Dieu donne cette puissance du Saint-Esprit en réponse à un état d'esprit qui se développe grâce à certaines conditions. Et nous avions vu ensemble les 7 conditions que la parole de Dieu nous donne pour recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce que fait le Saint-Esprit. Que fait-il dans nos vies? Comment agit-il dans notre existence? Et pour cela, j'aimerais prendre une image par laquelle la Bible désigne le Saint-Esprit. Il y a plusieurs images qui sont utilisées dans la Bible pour parler du Saint-Esprit. Vous les connaissez. C'est le vent, c'est l'eau, c'est quelque chose qui ressemble à une colombe, nous dit le texte. C'est aussi le feu. Et c'est l'exemple du feu, parmi les autres, que j'aimerais prendre aujourd'hui pour nous permettre de discerner ce que fait le Saint-Esprit dans nos vies. Pour cela, j'aimerais prendre avec vous ce texte de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 3, où Jean-Baptiste ici prophétise et dit ceci au verset 11. Évangile selon Matthieu, chapitre 3, au verset 11, il est dit ceci. Moi, dit Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean annonce que celui qui vient après lui leur accordera le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Et c'est effectivement une prophétie qui, dans le cas particulier, s'est réalisée quelque temps après, au moment de la Pentecôte, où les disciples, effectivement, ont été investis d'une puissance particulière pour une mission particulière. Le baptême de feu, c'est celui que nous recevons en tant que disciples en même temps que le baptême d'eau. Parce que ce baptême d'eau que nous recevons, c'est le baptême de Jésus, pas le baptême de Jean. Et le baptême de Jésus est un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, coïncide avec le baptême d'eau. Cependant, nous n'utilisons pas toujours, malheureusement, les ressources de ce baptême de feu dans la mission qui nous est confiée. Le baptême de feu, le feu dans les Écritures est associé à plusieurs choses. Vous savez comment dans l'Ancien Testament, beaucoup d'images sont utilisées pour représenter ce que Dieu veut nous faire connaître. Dans l'Ancien Testament en particulier et dans la Bible en général, le feu représente la présence, la gloire et la puissance de Dieu. La présence, la gloire et la puissance de Dieu. Et j'aimerais prendre avec vous quelques exemples ce matin pour illustrer ce fait. Le feu représente la présence de Dieu. Regardez par exemple dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Ce qui est inscrit au verset 2. Exode, chapitre 3, au verset 2. C'est là un événement que nous connaissons bien, où il est dit dans Exode, chapitre 3, verset 2, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. » C'est cet événement que nous connaissons sous le nom de buisson ardent, l'histoire où Moïse, dans le désert, est tout d'un coup interpellé par ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Ce buisson dans lequel se trouve celui qui sera Jésus, le « Je suis » qui se présentera ainsi dans cet événement-là et qui se présentera ainsi de la même manière à son peuple lorsqu'il viendra dans son incarnation. Et vous avez remarqué cette présence de Dieu se manifeste dans une flamme de feu. Un autre exemple, un petit peu plus loin dans le même livre de l'Exode, au chapitre 13, est indiqué au verset 22. Exode, chapitre 13, verset 21, pardon. Il est écrit ceci. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'était la marque de la présence de Dieu, une présence permanente de Dieu. Jésus avait promis à ses disciples qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse qu'il fait à ses disciples, il la donne déjà à son peuple par la manifestation de sa présence dans cette colonne de nuée pendant la journée, dans cette colonne de feu pendant la nuit. Et vous savez très bien comment les enfants aiment avoir une petite veilleuse dans leur chambre la nuit, n'aiment pas être dans leur chambre quand il fait totalement noir. Dieu avait mis une grande veilleuse au milieu du peuple pour manifester sa présence, sa garde, sa protection. Et vous pouvez imaginer le sentiment que ce peuple pouvait avoir le soir, alors qu'ils allaient se coucher, de tourner leur regard vers cette colonne de feu qui était là au milieu du camp et qui était l'expression de la présence de Dieu parmi eux. Et pendant qu'ils allaient dormir les uns les autres, celui qui veille sur eux ne sommeillait jamais. Le feu, manifestation de la présence de Dieu. Le feu est aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Prenez par exemple ce texte qui se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7. Nous sommes ici dans le contexte de la construction du temple par Salomon. Et il est dit ceci dans les versets 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. » La prière de Salomon est une prière de dédicace, offrant ce temple qu'ils ont construit selon les instructions reçues, l'offrant à Dieu pour qu'il y habite, pour qu'il habite au milieu de son peuple. Et Dieu va le manifester par le feu, il va consumer l'Holocauste. Et vous avez remarqué comment dans ce texte, le feu est associé ici à la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel reposait sur la maison. Nous avons d'autres exemples, bien entendu, dans les Écritures. J'aimerais simplement prendre un exemple un petit peu différent où le feu n'est pas mentionné, mais où une dimension différente de la gloire de Dieu est manifestée. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, vous connaissez l'événement qui est raconté ici, où Moïse va faire une demande toute particulière à Dieu. Exode, chapitre 33, verset 18. Exode, chapitre 33, verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Une demande particulière, où Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu lui dit, « Ma gloire n'est pas exactement ce que tu penses. Ma gloire, ce n'est pas simplement le feu qui tombe sur la montagne du Sinaï et qui l'embrase. Ma gloire, c'est ma bonté, c'est mon amour, c'est ma grâce, c'est ma miséricorde. » Et c'est ce que Dieu voulait montrer à Moïse. Sans aucun doute, Dieu s'était manifesté avec puissance par le feu qui était tombé sur le mont Sinaï au moment où il avait donné sa loi, une manifestation de sa gloire. Mais Dieu voulait faire comprendre qu'il y a un autre aspect à sa gloire, c'est son caractère parfait, son caractère d'amour et de justice. Retenez ça dans votre esprit, nous y reviendrons dans un instant. Le feu dans la Bible, c'est la manifestation de la présence, de la gloire et de la puissance de Dieu. Et j'y faisais allusion il y a un instant, dans l'Exode au chapitre 19, se trouve là une illustration de cette gloire, de cette puissance de Dieu manifestée par le feu. Exode chapitre 19, au verset 18, il est écrit ceci, « Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Une manifestation de la puissance de Dieu. Ils avaient peut-être vu en Égypte la puissance des dieux païens qui faisaient des miracles, du spiritisme autrement dit. Dieu se manifeste autrement ici. Il est le Dieu tout-puissant, le Créateur. Et sur cette montagne du Sinaï, il va se manifester par le feu. Un autre exemple se trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 17. Un événement encore que vous connaissez bien en relation avec le ministère du prophète Élie. Premier livre des Rois, chapitre 18, pardon, au verset 38, il est écrit ceci. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, la pierre et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Vous vous en souvenez, dans cette rencontre particulière de Élie avec tout le peuple, Akab et les prophètes païens, il y a là un défi qui est lancé à Dieu. Et Élie, tout seul, représentant de Dieu, va prier. Une prière toute simple, qui se trouve au verset précédent, où il dit, « Seigneur, réponds-moi, manifeste-toi. » Et il se manifeste avec puissance par le feu. Un feu qui va brûler non seulement l'holocauste, mais le bois et la pierre et la terre et l'eau qui a été versée dessus pour éviter toute tromperie. La manifestation de la puissance de Dieu. L'exemple de la manifestation de la puissance de Dieu dans le contexte du ministère d'Élie est particulièrement significative. Vous vous souvenez que cet événement-là se produit après 3 ans et demi de sécheresse. Et vous savez comment cette expérience d'Élie est à mettre en parallèle avec ce que nous avons dans le livre du prophète Daniel au chapitre 7, où il est question dans l'histoire de l'humanité de 3 ans et demi prophétiques de sécheresse spirituelle qui aboutissent vers les années 1800, à la fin d'une période particulière où le jugement de Dieu va se manifester. Une époque toute spéciale qui annonce que nous sommes arrivés dans la fin des temps. Le ministère d'Élie a donc une signification toute spéciale et l'action du Saint-Esprit à ce moment-là est particulièrement significative. Parce que nous savons que l'Esprit-Saint s'est manifesté avec puissance pour démarrer l'Église au moment de la Pentecôte, mais nous savons aussi que l'Esprit-Saint se manifestera d'une façon encore plus significative à la fin des temps pour terminer l'œuvre de Dieu dans le monde, l'œuvre qu'il a confiée à son Église, dans ce que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. Il y a donc de la part du Seigneur une promesse particulière de recevoir ce baptême de l'Esprit, un baptême que nous recevons au moment du baptême d'eau, mais que nous avons besoin, comme tout le reste de notre vie chrétienne, d'entretenir, de développer, d'affermir. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, se trouve renouvelée cette promesse de Jésus à ses disciples. Actes, chapitre 1er, au verset 5, il est dit ceci. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une promesse qui est faite ici avec un objectif bien particulier. Vous avez remarqué, Jésus promet d'accorder cette puissance particulière de son Saint-Esprit à ses disciples afin qu'ils soient ses témoins dans le monde entier, autour d'eux, et puis de plus en plus loin jusqu'à rejoindre les extrémités du monde. Cette promesse du Saint-Esprit est donc faite dans un but bien précis, le but d'équiper son Église, ses disciples, pour réaliser la mission qu'il leur donne aussi d'accomplir dans le monde d'aujourd'hui. Ce baptême du Saint-Esprit, ce baptême d'eau et de feu, est par conséquent une immersion. Immersion dans la présence, dans la gloire et dans la puissance de Dieu. Il y a là trois aspects à ce baptême de feu. De la même manière, il y a trois actions particulières du Saint-Esprit dans nos vies. Ils sont associés précisément à la présence, à la gloire et à la puissance de Dieu. L'action du Saint-Esprit va se manifester de la manière suivante. Tout d'abord, le Saint-Esprit révèle. Je vous propose de regarder un passage dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 2, où cette caractéristique est mentionnée. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, au verset 9, il est écrit ceci. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'action du Saint-Esprit se manifeste d'abord par la révélation de qui est Dieu. C'est une révélation de sa personne. C'est une révélation de qui il est. Et naturellement, nous dit le texte, nous allons connaître les choses de l'homme, mais si nous voulons connaître les choses de Dieu, c'est l'Esprit qui va nous le révéler. Dieu, par son Esprit, se révèle à nous. Mais il va aussi nous révéler autre chose. Regardez un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Pierre, cette autre dimension de la révélation accordée par le Saint-Esprit. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 21. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 21. Lisons dès le verset 20, si vous voulez bien. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Par son Esprit, Dieu se révèle lui-même, mais par son Esprit, Dieu nous révèle son plan. C'est l'Esprit de la prophétie. Il va communiquer à ses prophètes la valeur, la beauté du plan du salut en Jésus-Christ. Nous n'avons donc pas la possibilité de l'imaginer à notre manière, nous dit le texte. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée, c'est par l'action du Saint-Esprit, pour révéler à l'humanité le plan du salut en Jésus-Christ. Mais l'Esprit ne révèle pas seulement qui est Dieu, il ne révèle pas seulement son plan pour nous, il révèle encore ce qui est inscrit dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 3. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Au verset 12, il est écrit ceci. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. L'Esprit de Dieu va ici, dans ce passage, nous révéler qui nous sommes, ce que nous avons fait, la valeur de nos œuvres à ses yeux. Ainsi, le Saint-Esprit va révéler qui est Dieu, nous faire connaître qui il est. Le Saint-Esprit va nous révéler le plan de Dieu pour nous sauver en Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit va aussi nous révéler qui nous sommes. Il va nous révéler à quel point nous avons besoin de ce plan du salut qu'il a révélé dans sa parole. Vous connaissez ce passage de l'Évangile de Jean au chapitre 16, où Jésus rappelle que l'Esprit nous convainc de péché. C'est l'Esprit qui nous fait connaître la différence énorme qu'il y a entre ce que nous sommes et ce que Dieu est. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre à quel point nous avons besoin de lui pour lui ressembler. La deuxième action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit purifie, le Saint-Esprit consume. Et nous connaissons les passages qui parlent de cela, j'aimerais prendre juste quelques exemples. Dans le livre des Nombres, au chapitre 31, après une page sombre de l'histoire d'Israël qui demandait confession, pardon, purification, Dieu donne des instructions. Et il est écrit ceci au verset 22. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller dans le feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Feu, purification. Et vous savez comment nous sommes représentés aussi par ce métal que Dieu veut raffiner, que Dieu veut épurer. Par exemple, dans ce texte que nous connaissons bien, qui est dans le livre de Malachie au chapitre 3, où là encore la même comparaison est utilisée. Malachie chapitre 3. J'aimerais lire avec vous depuis le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera qu'on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Vous reconnaissez dans ce passage une annonce du messager, le messager. Et Jean-Baptiste va reprendre à son compte cette parole de la prophétie. Mais le messager annonce le Seigneur qui vient dans son temple. Mais que vient-il faire dans son temple? Il vient juger, il vient épurer. Vous le retrouvez par exemple au verset 5, où il est dit « Je m'approcherai de vous par le jugement ». Le Seigneur veut épurer. C'est le feu qui consume les scories dans le métal à purifier. Ainsi, cette image est reprise pour qualifier l'action du Saint-Esprit, en particulier à la fin des temps, dans un temps que l'histoire du prophète Élie nous a indiqué. Après les 3 ans et demi de sécheresse spirituelle, vient le jugement de Dieu. C'est dans ce cadre-là que Dieu veut épurer son peuple, pour le préparer en réalité à la venue du Christ. Jean-Baptiste présente ici la venue de Jésus. Un Jésus qui va se présenter lui-même comme une épée à double tranchant. Quelqu'un qui apporte la paix, mais quelqu'un qui apporte aussi l'épée. Quelqu'un qui va révéler dans les cœurs ce qu'il y a et le nettoyer. Le nettoyer en vue du service. On raconte ce qui se passait dans l'ancienne Dalmatie, un pays d'Europe. Il y a très longtemps, les gens de ce pays, plutôt pauvres, n'avaient pas les moyens de trouver des matériaux de construction adéquats. Alors ils utilisaient des briques faites avec une terre bitumeuse. Et ils construisaient ainsi leur maison avec ces briques remplies de bitume. Autrement dit, ces maisons étaient rendues inhabitables. L'odeur était insupportable. C'était même des maisons malsaines. Mais ils construisaient leur maison avec ces briques remplies de bitume. Lorsque la maison était finie, avant d'aménager, ils mettaient le feu à la maison. Et ils brûlaient ainsi le bitume de cette maison. En brûlant, la maison devenait toute blanche. Les briques se solidifiaient et l'odeur s'en allait. Passée par le feu, la maison devenait habitable. Et nous sommes aussi invités à être, chacun d'entre nous, une habitation de Dieu en esprit. Il va falloir cependant que le Seigneur la fasse passer par le feu de la purification. Et vous vous souvenez, cette gloire de l'Éternel qui est manifestée par le feu, c'est aussi l'expression de son caractère. Ce que Dieu veut faire par l'action de son esprit, c'est restaurer en réalité son caractère dans le nôtre. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup de travail à faire? La troisième action du Saint-Esprit, c'est l'action du Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est en rapport avec cette expression de la manifestation de la puissance de Dieu par le feu. J'aimerais prendre simplement à ce sujet l'exemple du prophète Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Dans sa vision, Ésaïe est impressionné par la présence de Dieu qu'il voit assis sur son trône, des séraphins, des anges qui l'entourent. Et il dit au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Et verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Pourquoi Dieu nous donne-t-il cette force par son esprit ? Pour que nous soyons des costauds plus forts que les autres ? Pour que nous soyons capables de faire des miracles impressionnants ? Dieu nous accorde sa force pour que nous puissions remplir notre mission. Il nous accorde sa force pour le service. C'est pour cela qu'il nous accorde sa force. Souvenez-vous, dans le livre des Actes, cette manifestation était particulièrement évidente. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, nous retrouvons là les apôtres après l'époque de la Pentecôte. Et j'aimerais lire simplement le verset 13 avec vous. Actes des apôtres, chapitre 4, le verset 13 souligne justement ce fait-là. Actes, chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Nous disons souvent, « Mais moi, je ne suis pas capable de faire ceci, je ne suis pas capable de faire cela. » Et c'est sans aucun doute ce qu'à un certain moment, les disciples ont ressenti. Mais il est dit ici, ce sont des hommes du peuple, ce sont des gens comme tout le monde, des gens sans instruction, des gens qui n'ont rien de particulier. Sinon, d'avoir reçu cette puissance que Dieu leur confère par son esprit, pour qu'ils soient ses témoins. Et ils sont ses témoins avec assurance, avec audace. Ils n'avaient pas besoin d'être bardés de diplômes de toutes sortes. Ça peut rendre service, et c'est utile. Mais ceux qui n'en ont pas sont investis de la puissance de Dieu par son esprit pour accomplir précisément la mission que Dieu a donnée à chacun de ses disciples. Par l'esprit, Dieu nous fortifie. Dieu nous accorde ainsi ces trois dimensions de l'action de Dieu par son esprit. Dieu, par son esprit, révèle. Par son esprit, il purifie. Par son esprit, il fortifie. Nous avons effectivement reçu ce baptême du feu, ce baptême de l'esprit, lorsque nous avons reçu le baptême d'eau. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, nous avons saisi avec joie la bénédiction qui est attachée au baptême d'eau, parce que ce baptême d'eau nous libère de notre passé dont nous avons voulu nous débarrasser. Et nous avons joui de la délivrance que le baptême nous accorde en Jésus-Christ par rapport à ce passé dont nous voulons absolument nous séparer. Mais il se peut que nous n'ayons pas saisi toute la puissance qu'il y a dans ce baptême par rapport au futur. En réalité, Dieu veut par le baptême aussi nous équiper pour l'avenir. Il veut nous équiper pour la mission. Il ne s'agit pas simplement, seulement de se réjouir d'un passé qui est jeté au fond de la mer, selon la promesse de Dieu, mais il s'agit aussi de recevoir cet équipement pour accomplir la mission qui est devant nous. Et dans notre baptême se trouve aussi ce baptême de feu qui nous prépare à l'avenir. D'ailleurs, nous ne sommes pas seuls dans cette mission et dans cette tâche à accomplir. En terminant, j'aimerais regarder un passage avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er. Épître aux Hébreux, chapitre 1er, il y a là des citations de l'Ancien Testament. Au verset 7, il est dit « De plus, il est dit des anges, il fait de ces anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. » citation ici qui est tirée du psaume 104. Ces anges, ce sont des flammes de feu. Ces anges sont porteurs, eux aussi, de cette action du Saint-Esprit. Écoutez ce paragraphe que je tire du livre « Les témoignages » au volume 6, écrit par Ellen White. « Ceux qui travaillent pour le bien des autres le font en collaboration avec les anges du ciel. Ils sont leurs compagnons en permanence et exercent envers eux un ministère incessant. Les anges de lumière sont constamment à côté d'eux pour les protéger, pour les réconforter, pour les guérir, les instruire et les inspirer. Dans cette mission, nous avons la compagnie, l'assistance des anges en permanence, parce qu'ils sont eux aussi ces flammes de feu que Dieu envoie sur notre chemin pour collaborer avec nous dans la mission que le Christ nous a confiée. Ils sont ces porteurs de l'action de l'Esprit-Saint. Ainsi, si nous voulons dans notre marche chrétienne progresser, si nous voulons rentrer pleinement dans le plan que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, alors nous sommes invités à vivre dans la présence de Dieu pour qu'il se révèle, qu'il nous révèle son plan et qu'il nous révèle qui nous sommes. Nous sommes invités à jouir de la gloire de Dieu pour qu'il consume en nous ce qui doit être purifié. Nous sommes invités à recevoir sa force pour pouvoir être, dans le siècle d'aujourd'hui, les témoins qu'il attend de chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen.